Écoute un métier, le podcast qui te permet de construire ton avenir sur Radio Campus Tours. Salut, c'est Camille. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast. Cet épisode est un peu spécial car il ne s'agit pas cette fois d'un métier que je vais te faire découvrir, mais d'un engagement bénévole. Mon invitée est la présidente de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur, qui est un acteur essentiel pour faire évoluer les mentalités et les pratiques, et pour garantir un environnement d'études plus sûr pour toutes et tous. C'est pourquoi j'ai jugé indispensable d'inviter sa présidente. Sur ce, je te souhaite une bonne écoute. Donc, Madame Gaëlle Barton, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur, mais à côté de ça, vous êtes aussi consultante juridique pour la direction des affaires juridiques des ministères sociaux depuis un an maintenant, c'est cela ?
Ça vient tout juste de se terminer et actuellement je suis élève inspectrice de l'action sanitaire et sociale.
Ok. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours professionnel et personnel ? Et comment vous êtes sensibilisée à la lutte contre les inégalités de genre ?
Tout à fait. Alors, les deux ont pris racine au même moment. Donc, j'ai fait des études de droit. Je me suis spécialisée en droit de la santé, protection des personnes vulnérables, mais sur l'égalité, les inégalités de genre. En l'occurrence, je m'y suis intéressée aussi au début de mon cursus universitaire. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai intégré l'association. Donc, les deux sont faits au même moment. Et donc, plus précisément, j'ai voulu creuser la question des violences sexistes et sexuelles en parallèle de mes études de droit. Donc, j'ai réalisé un diplôme universitaire clinique des violences sexuelles et psychotraumatologie. Et puis, je me suis aussi investie à l'échelle du coup de mon université à Tours. Et j'étais étudiante relais santé dans le groupe vie affective et sexuelle. Donc, là aussi, j'avais un prisme sur les violences sexistes et sexuelles. Et ensuite, sur ma sensibilisation à la lutte contre les inégalités de genre. Là, ça passe à la fois donc sur la formation que j'ai pu réaliser, sur les livres, les podcasts, et puis directement au sein de l'association, où j'ai pu aussi apprendre beaucoup et accéder à certaines ressources.
Donc vous avez fait un DU, mais est-ce qu'il existe des filières avec des parcours, par exemple des masters spécialisés en droit ou autre, ou en santé, par exemple, sur les inégalités de genre ?
Alors en droit, pas forcément, ça va être plutôt en psychologie ou des masters spécialisés sur le genre qui existent de plus en plus dans plein d'universités et après d'autres formes de diplômes universitaires mais souvent à destination des professionnels par exemple de santé ou autres. Donc voilà, il y a la criminologie, victimologie qui existe mais qui a un prisme du coup là pour le coup vraiment juridique. Donc je pense que c'est ça qui se rapproche le plus de mes études et qui prend en compte les violences sexistes et sexuelles, sinon ce sera directement des masters spécialisés sur la thématique.
D'accord. Et donc comment est-ce que vous êtes devenue présidente de l'Observatoire ? Est-ce que vous pouvez aussi revenir sur sa fondation ?
Oui. Alors, j'ai commencé par être chargée de mission relations-association au sein du pôle grand projet de l'Observatoire. Donc, en fait, j'ai commencé un poste bénévole qui prenait, on va dire, un temps classique d'investissement avec des liens réguliers avec les associations qui nous sollicitent, à la fois pour mener des conférences de sensibilisation, pour nous demander des ressources, poser des questions techniques, ce genre de choses. Et donc, j'étais très proactive et investie. Ce qui m'a permis d'avoir une vision un peu plus large aussi de ce qui se faisait dans l'association. Et je pense que c'est pour ça qu'ensuite, j'ai pu prendre le poste de secrétaire générale de l'association, qui là est un poste un peu plus stratégique, mais aussi très administratif, puisque évidemment, c'est vraiment vérifier que l'association est en conformité du point de vue de la loi et du respect en fait, des règles. Mais ça ne m'a pas du tout déplu et c'était aussi très gratifiant comme rôle que j'ai donc occupé pendant 2 ans. Et là, ça fait quelques mois, on va dire, non, pas si longtemps que ça, 1 an, que j'occupe le poste de présidente. présidente, puisque du coup l'ancienne présidente qui était là depuis le début et qui est à l'origine de la fondation de l'association, et ben, s'est lancée dans un parcours professionnel extrêmement prenant pour elle. Et puis elle pensait avoir aussi fait le tour et mené à bien pas mal de projets aussi à son échelle. Donc elle m'a laissé un peu son association initiale. Et donc pour revenir sur la fondation de cette association, ça s'est fait il y a un peu plus de 5 ans, bientôt 6. À l'origine, du coup, cette fondatrice, mais aussi d'autres cofondatrices, étaient dans des grandes écoles majoritairement. Et en l'occurrence, quand elles essayaient d'énoncer les violences qui avaient lieu en fait dans leurs écoles, dans leurs établissements, qu'elles vivaient ou qu'elles voyaient, qui existaient dans les soirées étudiantes ou autres, eh bien, il y avait vraiment un déni de l'administration, des chefs d'établissement, qui disaient soit que ça n'existait pas, soit que c'était chez les autres et pas dans leur établissement. Donc ça, c'est ce postulat-là, c'est ça qui a fait que l'Observatoire a été créé, à savoir le fait d'avoir des données chiffrées qui permettent d'établir que malheureusement, si les violences sont systémiques, qu'elles sont partout et donc que chaque établissement doit lutter contre les violences au sein de son établissement. Et donc, c'est pour ça que la première action de l'Observatoire, ça a été de faire un baromètre, enfin un état des lieux des violences dans l'enseignement supérieur français, qui n'y a pris pas mal de temps parce que, évidemment, l'association venait de se créer, donc il faut voilà, chercher des partenaires, et rassurer. Et voilà, en tout cas, convaincre plutôt les établissements, par exemple, de notre travail. Et donc, ça a pris du temps, mais au bout d'un peu plus d'un an, cette enquête a vu le jour et est sortie en octobre 2020, où on a pu faire un premier état des lieux alarmant qui avait très bien été relayé au niveau médiatique et évidemment, ça aide. Voilà, et ensuite, on a développé nos actions, mais globalement, c'est un peu l'origine et la genèse de l'association.
Et est-ce que vous avez remarqué des changements, des améliorations ou non de la part de l'administration, des universités depuis la mise en place de l'Observatoire?
Oui, alors je ne vais pas attribuer ça évidemment qu'à l'Observatoire. Il y a plein d'autres choses qui ont bougé en même temps parce que nous, on s'est créé en 2019, mais par exemple en 2018, enfin, dans ce même temps, il y a eu les obligations légales de mettre en place des chargés de mission égalité au sein des établissements. Donc ça, par exemple, c'est une mesure dont on n'est pas à l'origine, mais qui est concomitante à notre création et qui a participé évidemment à améliorer la situation. Mais après, je pense que le fait effectivement d'être une association spécialisée sur cette thématique, c'est extrêmement précis, avec une autre association, le Clash, qui pour le coup travaille aussi sur cette thématique précise et on collabore très régulièrement. Ça aide aussi pour les établissements de trouver une référence et ne serait-ce que de mobiliser les ressources quand elles ne savent pas forcément par où commencer, quel guide regarder, ce genre de choses. Donc on peut être une fonction support qui va aider à accélérer les actions là-dessus. Et puis ça nous arrive très régulièrement d'envoyer par exemple des livrets blancs aux établissements sur ben, en fait qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place, quelles sont nos recommandations sur la thématique. Et donc ça peut être effectivement un guide et peut-être intégré dans leur plan d'action de lutte contre les violences au sein des établissements.
Et donc pour venir à votre position, quelles sont vos tâches en tant que présidente?
Alors c'est assez vaste hein, la position de présidente, je dirais qu'il n'y a pas de tâches fixes, mais dans ce qui revient en tout cas dans les grandes lignes, c'est à la fois le fait de définir la stratégie de l'association sur le court et le moyen terme. Alors pas toute seule, c'est avec tout le reste du bureau évidemment, mais en tout cas il y a une place importante là-dedans. Il y a le fait de garantir le respect des valeurs de l'association en interne et en externe, et ça c'est aussi avec la secrétaire générale, de développer et superviser des actions de grande ampleur au sein de l'association. Donc, des projets, par exemple, qui vont mobiliser ben, beaucoup de financement, beaucoup de pôles, ce genre de choses. Je vais être en supervision et voilà, vérifier que tout se passe bien, impulser aussi, participer moi-même en fonction de mon temps. Je supervise aussi les activités de la salariée et de l'association, parce qu'on a une salariée au sein de l'association. Enfin, on va dire en dernière tâche, mais il y en a d'autres, représenter l'association vis-à-vis des institutions et aussi dans les médias.
Quels sont les principaux enjeux en matière de lutte contre la discrimination dans l'enseignement supérieur?
Alors, il y en a plein, mais il faut en choisir. Du coup, je vais donner peut-être ceux qu'on a en plus grande recommandation par le pôle plaidoyer. L'enjeu principal aujourd'hui, c'est les moyens financiers et humains dédiés à la lutte contre les violences. Aujourd'hui, avec la trajectoire budgétaire des universités, ça ne laisse rien présager de bon sur le budget alloué à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Parce qu'évidemment, quand il y a énormément de restrictions budgétaires, peu de budget, la priorité ne va pas forcément être donnée à cette lutte. Et pourtant, c'est un enjeu de santé publique, de sécurité pour les étudiants et étudiantes. Enfin, bon, il y a plein de raisons qui font qu'évidemment, ça doit être une priorité. Donc, il y a ça. Et puis, il y a le manque de généralisation des obligations à tous les établissements d'enseignement supérieur s'agissant de la lutte contre les violences, parce qu'il y a des différences et des grosses disparités entre, d'une part, les établissements publics qui, eux, ont des obligations légales et donc qui sont un peu obligés de les mettre en place, même si après, il y a des disparités dans le bon fonctionnement des dispositifs qui sont mis en place, mais aussi avec, du coup, les établissements privés qui, eux, n'ont pas d'obligation de ce type et doivent se référer plutôt au code du travail et donc vont eux-mêmes mettre dans leur règlement intérieur la façon dont ils gèrent les violences sexistes et sexuelles. Et donc on se retrouve avec des établissements des fois privés qui n'ont absolument rien sur la thématique, ne connaissent même pas la signification du terme chargé de mission égalité. Donc voilà, on a des disparités énormes entre étudiants et étudiantes en fonction de leur établissement. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Et j'en donnerai encore deux peut-être qui sont hyper importants. La formation de toute la communauté étudiante. Donc ça comprend évidemment les personnes qui sont en première ligne pour gérer les cas de violences sexistes et sexuelles, l'administration, le chef d'établissement, parce qu'il a un rôle important dans le fait de déclencher ou non, par exemple, une procédure disciplinaire. Donc il doit être formé sur cette thématique. Et puis, enfin, des mécanismes de vérification et d'évaluation des actions de lutte contre les violences, parce qu'aujourd'hui, de manière générale, dans toutes les politiques publiques, mais aussi, surtout nous, ce qui nous intéresse dans les États, manque d'évaluation en fait des objectifs. Est-ce qu'on a atteint les objectifs? Comment on peut améliorer les dispositifs? On met en place des choses, mais il y a peu d'évaluation et de vérification par la suite.
Et comment sont mises en place les enquêtes?
Eh bien, les enquêtes au sein de l'Observatoire, donc il y en a trois types. Le premier type, c'est l'enquête nationale qui fait l'état des lieux des violences au sein de l'enseignement supérieur. Elle a lieu à peu près tous les 3 à 4 ans pour voilà, avoir un état des lieux régulier. Mais vu que ça engage évidemment énormément de ressources, nous en interne, pour en fait, mener à bien ces enquêtes qui sont très prenantes et qui ont environ 10 000 répondants-répondantes qu'on garde, mais jusqu'à 20 000 répondants-répondantes à ces enquêtes. Donc après, traiter toutes les données, faire un rapport, établir des recommandations, voilà, ça prend énormément de temps, mais donc il y a cette enquête-là qui a lieu tous les 3-4 ans. L'autre type d'enquête, c'est les enquêtes nationales thématiques. Donc là, c'est soit, en fait, on va avoir une thématique qui va se dégager des autres, où on remarque qu'il y a un sujet spécifique à creuser, qu'il faut explorer, où il y a des typologies de violences potentiellement différentes. Et donc, dans celles qu'on a sorties récemment, il y a l'enquête sur les violences sexistes et sexuelles en milieu doctoral, par exemple, où là, on voit qu'il y a des typologies de violences qui diffèrent de ce qu'on peut avoir dans l'enseignement supérieur classique, parce qu'il y a des liens hiérarchiques de pouvoir et des impossibilités parfois de changer de situation, de s'extraire de la situation. Donc voilà, on en a fait une aussi spécifiquement sur les rites étudiants, le bizutage, qui semblait en tout cas avoir besoin d'un éclairage. Et puis après, le troisième type d'enquête qu'on mène, c'est des enquêtes personnalisées à la demande d'un établissement qui souhaite connaître l'ampleur des violences et les typologies de violence au sein de son établissement qu'on co-construit avec l'établissement et les associations étudiantes.
Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le VS Corps?
Ouais, le VSS Core, c'est un projet qu'on avait mis en place en 2022 à l'occasion de l'élection présidentielle. Et donc, c'était une analyse des programmes des candidats-candidates à l'élection sur la thématique, nous, notre thématique très précise, des violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur. Et alors, évidemment, c'est un sujet qui n'est pas forcément intégré au programme politique parce que c'est un sujet très précis. Pour autant, il y a quand même déjà les grandes lignes de ce qu'ils vont faire en termes de violences sexistes et sexuelles. Et puis, on a mené surtout des entretiens avec les équipes de campagne de plusieurs candidats-candidates où on a pu approfondir la question, déjà avoir leur avis, évidemment, sur cette thématique et puis fournir, nous, nos recommandations sur la thématique en espérant qui soient intégrés dans leur programme. Et donc, à l'issue de cette analyse à la fois du programme en lui-même, mais aussi du coup des entretiens, on a établi une note sur 10 pour chaque candidate. Et donc, ce qu'on espérait, c'était que le VSS score et les engagements ou non des candidats-candidates sur cette question apporteraient en fait des clés de lecture des programmes politiques pour les citoyens et citoyennes qui s'intéressent spécifiquement à ça et pour qui ça joue un rôle majeur.
Quels sont les partenariats qui peuvent aussi être mis en place?
Alors, pour parler du coup plutôt, par exemple, dans le prisme des associations de lutte contre les violences, comme les nôtres, il y a le fait de déjà penser, si possible, quand il y a les ressources évidemment financières, par exemple, de s'entourer d'une équipe ou d'une supervision psychologique, parce qu'on traite de thématiques qui sont émotionnellement dures à porter, que souvent une majorité des personnes qui font partie de ces associations ont été elles-mêmes victimes de violences. Et donc, en fonction de ce qu'on fait dans l'association, si on est amené à lire régulièrement des récits de violence, si on est amené à côtoyer régulièrement des victimes, ou alors juste travailler énormément sur la thématique, ça peut avoir un impact sur nous, sur notre santé mentale. Donc, je pense que ça, c'est un point qu'on néglige parfois, mais s'entourer du coup d'une supervision psychologique, le fait de se former, donc là, c'est dans la même dynamique, de former nos membres à se protéger justement émotionnellement, avoir des clés pour le faire. Voilà, mettre en place ce genre de formation, souvent en amont de projets qui vont forcément être amenés à les mettre en lien en fait avec des récits de victimes ou autres. En tout cas, anticiper ce genre de choses. Ça, c'est le conseil pour les associations qui sont un peu comme les nôtres. Et après, dans les autres partenariats qu'on peut envisager sur cette thématique, ce serait par exemple à l'échelle d'un établissement de faire des partenariats entre l'administration et les associations étudiantes, notamment féministes, mais aussi d'autres qui peuvent s'imprégner de la question, pour construire par exemple le plan de lutte contre les violences au sein de l'établissement ou des projets sur cette thématique pour que ça réponde réellement aux besoins de la communauté étudiante. On ne peut pas en fait juste imaginer une administration qui fait dans son coin le plan ou la mise en action parce qu'en fait ça ne va pas forcément répondre aux besoins et aux réalités des étudiants et étudiantes. Donc il y a ça à prendre en compte. Et puis enfin, je dirais de faire des partenariats entre associations qui ont par exemple pas les mêmes actions mais qui sont complémentaires pour pouvoir mettre en commun les ressources et avoir une plus grande force de frappe.
Comment est-ce que vous arrivez à sensibiliser les différents acteurs de l'enseignement supérieur?
Alors, on sensibilise notamment via nos chiffres, donc nos enquêtes, qui nous permettent, on va dire assez facilement déjà, de montrer que ça existe, que c'est systémique. Ça, c'est la première étape où on ne peut pas nous rétorquer, non, ça n'existe pas, ou ce genre de choses. Et puis, voilà, c'est une visualisation assez rapide et malheureusement un peu inquiétante de ce qui se passe. Réellement. On sensibilise aussi avec des conférences de sensibilisation, soit des conférences sous forme amphithéâtre, enfin par exemple les premières années qui arrivent dans l'enseignement supérieur, où on fait des sensibilisations au tout début, ou alors des ateliers pour les responsables associatifs qui là visent vraiment à aller beaucoup plus loin pour que ben, si jamais ils se retrouvent en contexte par exemple festif, qu'ils sachent gérer ce genre de situation, qu'ils sachent réorienter aussi les victimes, savoir que on n'est pas forcément nous compétents, on n'a pas du tout un rôle à jouer dans l'accompagnement psychologique de la victime ou juridique parce qu'on n'a pas les compétences, donc ce serait délétère même pour la victime. Donc l'apprentissage vraiment de la réorientation des victimes. Et puis on peut, à l'échelle de notre association, transmettre des guides, des informations qui viennent d'autres acteurs ou actrices qu'on a trouvé justement pertinents, bien précis et qui nous sont demandés, qu'on n'a pas forcément créé, mais du coup, on ne va pas recréer puisqu'ils existent.
Et comment est-ce que vous communiquez sur vos actions?
On communique sur, on va dire, trois canaux différents. Il y a le site internet de l'association où on met déjà pas mal d'éléments, d'informations et on peut retrouver plus facilement les informations. Il y a les réseaux sociaux. Donc là, c'est le compte Instagram et le LinkedIn notamment qu'on investit. Et puis enfin, quand on a des projets spécifiques ou des revendications à destination d'un public précis, ce genre de choses, ça va être des campagnes de mail. Donc sur une cible précise en fonction de nos objectifs.
Et vous, personnellement, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre rôle en tant que présidente?
Ce qui me plaît le plus dans mon rôle, je dirais que c'est avoir une vue d'ensemble sur nos actions, sur notre impact. Le fait de voir aussi les bénévoles s'épanouir au sein de l'association, les voir monter en compétences. Et puis, à titre personnel, c'est aussi d'acquérir toujours plus de notions et de compétences sur la thématique. On n'est jamais totalement expert-experte du sujet, on trouve toujours plus expert que soi. Et donc, de voir qu'il y a toujours des connaissances à acquérir, c'est aussi extrêmement stimulant et intéressant.
A contrario, ce qui vous plaît le moins?
Je dirais parfois peut-être le temps que ça prend, même si bon, j'adore m'investir et j'ai aussi du mal à mettre des limites, mais ça me prend beaucoup de temps. Et puis la partie parfois administrative, les comptes rendus à la suite de subventions, mais qui sont essentielles et de toute façon obligatoires.
Dans le futur, quelles sont vos ambitions?
Là, actuellement, on a une ambition qui nous tient vraiment à cœur et qui va pas être simple, c'est le fait de mener une réforme de la procédure disciplinaire à l'échelle législative. Donc il faut une modification législative, administrative et réglementaire. Et puis autre chose, mais là du coup plutôt à moyen terme, dans quelques années, c'est de réussir à avoir un rôle à l'échelle européenne.
Avez-vous des conseils à donner à quelqu'un qui souhaiterait agir pour l'accès aux droits et à la lutte contre les discriminations?
Oui, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Il y a à la fois au niveau de l'action individuelle, donc le fait de s'informer, de se former, de sensibiliser ses proches, de soutenir les associations sur les réseaux sociaux ou si jamais les personnes ont les moyens par des soutiens financiers, parce qu'on sait qu'actuellement, il y a une grande crise des financements des associations de lutte contre les violences et pas mal de remises en cause, donc ça compte. Et puis dans les actions collectives, c'est le fait de s'investir directement dans les associations ou dans les institutions, se mobiliser dans leurs établissements pour obtenir par exemple plus d'informations et de visibilité sur ce qui est en mise en place et puis faire respecter les obligations légales des établissements.
De quel projet est-ce que vous êtes la plus fière?
Dont je viens de parler, qui n'est pas encore abouti, mais qui, je l'espère, verra le jour donc, de cette réforme de la procédure disciplinaire, parce que l'impact, pour le coup, il serait majeur sur tous les étudiants et étudiantes français, hein, en fait, tout simplement, et qui permettrait d'accorder plus de droits aux victimes, qui n'est absolument pas pensé dans la procédure actuelle, et qui crée des situations, pour le coup, extrêmement graves et délétères. Mais du coup, pour dire un projet qui est en cours et dont on voit la réussite et le fruit, c'est les week-ends de formation, de sensibilisation qu'on mène. Il y en a trois en tout. On en a déjà réalisé un en région Île-de-France. Le prochain, il se passera à Poitiers. Donc, il concernera plutôt l'Ouest, les étudiants et étudiantes d'Ouest. Et l'idée, c'est de faire venir les responsables associatifs, du coup, de toute la région, d'établissements publics ou privés, et qui viennent se former à la thématique de manière extrêmement large, puisqu'on fait intervenir d'autres associations expertes et structures. Par exemple, on va avoir une intervention sur la dynamique entre les violences sexistes et sexuelles et le handicap, comment on rédige une charte au sein de son association, le consentement, comment on agit en tant que témoin. Enfin voilà, plein de questions que se posent les étudiants et étudiantes responsables associatifs et qui trouveront leurs réponses dans ces week-ends qui sont gratuits, où tout est pris en charge.
Quel message vous souhaitez faire passer à celles et ceux qui nous écoutent?
Je dirais déjà de s'investir dans tout ce qui vous passionne. Et puis si vous le pouvez, soyez au maximum dans l'action. Investissez les associations, les institutions, et puis agissez en collectif pour avoir plus d'impact. Et évidemment, suivez nos actualités et puis soutenez-nous si vous le pouvez.
Bien, madame, je vous remercie beaucoup pour cette interview.
Merci à vous.
C'est déjà la fin de ce podcast sur Radio Campus Tours. J'espère qu'il t'aura plu et n'oublie pas de t'abonner sur la page Instagram d'Écoute un métier. À bientôt!